Vous écoutez One Health, le podcast animé par les étudiants du Master en marketing pharmaceutique et technologie de santé et leurs nombreux invités sous l'égide de la Fondation Université Paris-Saclay, chère Beyond the Pill. Préparez-vous à voyager au cœur du monde du One Health, où la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale s'entremêlent. Vous écoutez la deuxième partie de cet épisode.
Effectivement, la protection contre les HPV est un enjeu majeur de santé publique. La vaccination est un moyen de prévention qui est désormais possible, même à l'école, en classe de 5e, depuis la rentrée de 2023, et dans les pharmacies. Toutefois, les directives et les recommandations varient en fonction de l'âge, de l'orientation sexuelle et des antécédents médicaux. Alors, voyons qui sont les principaux acteurs concernés. En France, la vaccination contre les infections à HPV est recommandée de 11 à 14 ans avec un schéma vaccinal à 2 doses. Pour ceux qui n'auraient pas été vaccinés à 14 ans, un rattrapage de la vaccination avec 3 doses est recommandé jusqu'à 19 ans inclus. Mais Cécile, si on vaccine dès l'âge de 11 ans, n'est-ce pas trop jeune? Est-ce que c'est efficace?
Alors, on vaccine des tout petits bébés, donc les vaccinations, c'est pas contre-indiqué chez le tout petit contre des infections. Alors, pourquoi trop jeune? Il est montré que le système immunitaire bouge et que la vaccination autour de 11 ans a toute son efficacité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait deux doses entre 11 et 15 ans. Et puis, plus tard, on fait trois doses pour stimuler l'immunité. Alors, trop jeune, il y a même des pays qui vaccinent à partir de 9 ans. Et puis, il y a cette volonté éventuellement, et c'est un des sujets les plus importants à l'heure actuelle dans la compréhension de cette nécessité de protection de population, c'est dégenrer un peu. Et de ne pas attacher ça, on a parlé de sexualité, attacher ça à de la sexualité, parce que finalement, si ça touche 80% d'une population, ça veut dire que ça touche tout le monde et que c'est un virus qui circule de façon très importante. Donc si on vaccine tôt, on décorrèle ça de la sexualité et on dit que c'est une prévention contre éventuellement un risque de cancer. Et puis, je pense que c'est important maintenant de parler des autres lésions. Il y a quand même 100 000 verrues génitales par an nouvelles dans les populations. Alors évidemment, c'est pas des cancers, donc mais ça n'empêche que ça peut être très très désagréable dans la vie d'un couple. Ça peut être très entravant dans la sexualité et ça laisse des lésions qui sont pas très agréables. Ça donne aussi des lésions précancéreuses. 36 000 lésions précancéreuses par an en France, le chiffre avant aussi était en France, chez les femmes. Ça veut dire qu'il y a 36 000 couples à un moment donné, ou 36 000 en tout cas femmes, qui sont peut-être en couple, et peu importe le couple, ça peut être des femmes et des femmes et des femmes et des hommes, avec des désirs éventuellement de maternité, des désirs de projection d'une vie de couple qu'on peut imaginer, où il y a des lésions précancéreuses qu'on va retrouver. Donc, ce n'est pas juste les cancers, c'est aussi toutes les lésions précancéreuses. Et là, on touche une population beaucoup plus importante. Donc, est-ce que c'est trop jeune? En tout cas, les immunologistes disent non. Est-ce que c'est la bonne période? Peut-être, parce que ça permet de parler aux parents en disant on va éviter des lésions. Est-ce que c'est trop jeune de demander à des parents de se projeter sur la sexualité éventuelle de leurs enfants? En fait, c'est jamais trop jeune ou trop vieux, parce que les parents ont du mal, de façon générale, à imaginer que leur bébé est devenu grand et qu'il devient adulte. Donc, tout ça est quelque chose de... Si c'est avec un bon accompagnement des parents, je pense que tout est entendable. Et de bien expliquer quels sont les enjeux.
D'accord, merci. Personnellement, je pensais, avant de faire mes études de pharmacie, que la vaccination était uniquement pour les femmes, car elle était associée à la prévention du cancer du col de l'utérus. Mais de ce que je vois aujourd'hui, les hommes peuvent également se faire vacciner. Pourquoi est-ce que c'est moins connu?
Alors, c'est moins connu parce que c'est nouveau en France, c'est depuis 2 ans. Quand on parle du papillomavirus, on parle du cancer du col de l'utérus parce que c'est un prix Nobel, parce que c'est quelque chose qui a été retrouvé. C'est moins connu parce que le cancer de l'oropharynx qui est retrouvé à 80% chez des hommes est un cancer qui a été reconnu comme existant depuis 2017 dans l'OMS, donc c'est très nouveau, et que quand quelque chose est retrouvé scientifiquement parlant, avant que ça soit entendu, qu'on puisse imaginer qu'il y ait des processus de protection et de choses comme ça, ben ça met longtemps. Donc c'est moins connu parce que le cancer de l'oropharynx chez les hommes, c'est assez nouveau, même si maintenant c'est plus nouveau et que c'est reconnu. C'est moins connu parce que on parle aussi des cancers de l'anus chez les femmes, sur le plan numérique, plus chez les femmes, mais aussi chez les hommes, ayant des rapports avec les hommes. Et du coup, bah, on en parle sur des populations plus particulières, avec, du coup, on attache ça avec une forme de sexualité. Et si on disait bah, les femmes et les hommes, ça serait peut-être bien, de façon générale, à ce qu'on protège une population, et bah, dans ces cas-là, on arrivera à passer complètement le côté on vaccine les filles et maintenant, seulement maintenant, les garçons. Donc il y a tout un travail pédagogique à faire. Et puis j'ose, si on vaccine les garçons, ce que certains pays ont considéré comme important depuis plus longtemps, ben, on protège aussi les femmes. Et parce que ça s'appelle une communauté, et donc vous parliez de global health. Ben, quand on fait disparaître un virus dans une communauté, ben, on protège tout le monde, avec tout ce que ça veut dire, des partages, ça veut dire aussi des partages de vie, des partages de souffrance aussi et de douleur quand il y en a un des deux qui est malade, bah, c'est compliqué. Des partages de protection et de prévention sur des fécondités, enfin voilà, donc de revenir sur quelque chose de global. Alors c'était pas entendable il y a quelques années. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus acquis que c'est un problème d'une globalité et qui sont les hommes et les femmes ensemble.
Donc on peut parler du coup de désexualisation de la pathologie. Cette transition marque un pas important vers l'équité en santé et brise les stigmates de genre. Nous avons remarqué que certains hommes pouvaient être remboursés de leur vaccin jusqu'à l'âge de 26 ans.
En France, il y a eu une exception, c'est-à-dire que depuis longtemps, alors que dans d'autres pays, on vaccine les filles et les garçons. Alors, je vais faire un petit aparté. Quand on vaccine, on le fait pour prévenir l'apparition de lésions. Donc, pour prouver qu'une vaccination est efficace, il faut montrer que soit un portage du papillomavirus, soit l'arrivée, et c'est surtout ça, des lésions, donc des lésions précancéreuses puis du cancer, diminue ou disparaît dans une population pour être efficace. Donc, le cancer du col, est un cancer sur lequel on va pouvoir suivre l'évolution pendant longtemps, puisqu'on en a parlé du portage HPV, puis des frottis pour aller rechercher des lésions. Donc, au fur et à mesure, on a pu accompagner les jeunes femmes vaccinées, enfin les jeunes filles, puis les jeunes femmes, on a pu voir que les lésions qui apparaissaient normalement quand il y avait un portage HPV ou quand il y avait un portage chronique HPV, n'apparaissait pas. Donc là, ça a mis très longtemps, parce qu'entre le moment où on est contaminé, le moment où on fait des lésions et le moment où on a un cancer, généralement on est contaminé autour de 17 ans, et puis on a des lésions à partir de 35 ans, 40 ans. Donc c'est long, 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 et donc il a fallu attendre de voir que ces populations de jeunes filles vaccinées tôt pouvaient avoir des lésions. Donc ça... Maintenant, il y a plusieurs pays, hein, il y a beaucoup de littérature qui montre que justement, ces cancers du col de l'utérus ont disparu ou sont beaucoup moins fréquents dans les populations de jeunes femmes vaccinées par rapport aux populations de femmes non vaccinées ou de populations pour lesquelles on a des références habituelles avant sur les populations non vaccinées. Donc ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, c'est le cancer de l'anus. On a montré, pareil, que si on vaccinait ces populations, on pouvait les suivre pendant longtemps. Pourquoi on ne vaccine les garçons ayant des rapports avec les hommes jusqu'à 26 ans, c'est parce que on pense que le gain jusqu'à 26 ans d'une vaccination, même si les jeunes hommes sont rentrés dans une sexualité où ils ont eu une infection, le fait de pouvoir les vacciner prévaut en santé publique sur le fait qu'il y a un risque de contamination multiple jusqu'à 26 ans. Mais la vaccination, elle est autorisée par la FDA jusqu'à 45 ans. Donc après, c'est des enjeux de population et de remboursement.
D'accord. Et du coup, vous trouvez ça équitable ? Est-ce qu'on a le droit de demander aux hommes leur orientation et leur pratique sexuelle ?
Alors en fait, on n'a pas le droit. Donc on propose la vaccination pour des hommes qui la demandent jusqu'à 26 ans. Donc ça s'est fait beaucoup dans les Cégides, où maintenant c'est remboursé, mais on n'a pas le droit de demander une orientation sexuelle à une personne qu'on vaccine. Donc, oui, on vaccine des garçons, des jeunes hommes, des hommes un peu plus vieux qui ont 26 ans, qui sont encore des jeunes hommes. Mais on considère qu'il faudrait avoir une campagne efficace pour vacciner les jeunes femmes jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors, est-ce que c'est juste ou pas ? C'est super qu'on puisse proposer des vaccinations aux hommes jusqu'à 26 ans parce que parfois c'est compliqué dans des sexualités hommes avec des hommes et de penser à se protéger avec des lésions qui peuvent être extrêmement invalidantes. Si on pouvait proposer une vaccination en prouvant que c'est efficace jusqu'à 26 ans pour les femmes aussi, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et dans ces cas-là, on définit les schémas, c'est de voir qu'il y a même des vaccinations chez des femmes, dans certains essais thérapeutiques, chez des femmes qui ont déjà des lésions, et pour lequel on essaie de voir si ce vaccin préventif, qui empêche normalement le virus de rentrer dans les cellules, pourrait avoir une action dans la stabilisation des maladies.
D'accord. Et si on se place sur une échelle mondiale, est-ce qu'il y a des inégalités territoriales qui pourraient influencer la vaccination ?
Alors, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas, puisque vous êtes très... informé sur le papillomavirus, vous avez lu les dernières recommandations de l'OMS et vous avez vu qu'ils disent que... Les recommandations, c'est au moins une dose parce que finalement, on a une efficacité à 80% qui peut être intéressante pour une population générale sur un portage général. Tout ça, c'est une question d'argent, de savoir si on peut payer les doses, si on peut faire ces vaccinations, d'organiser des vaccinations. C'est pas rien de faire des campagnes de vaccination, ça demande de l'énergie. Donc, déjà, si on peut vacciner avec une dose le monde entier, les petites filles du monde entier, voilà. Alors, pourquoi je dis petites filles ? Parce que il y a dans beaucoup de pays, il demeure encore cette inégalité dont on vient de parler, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas concernés par la vaccination. Donc c'est aussi, très important d'aller rediscuter avec les décideurs et de repositionner la problématique du cancer de l'homme. Alors c'est d'autant plus intéressant que dans certains pays, il ne faut pas oublier qu'on est opéré et puis qu'il n'y a pas forcément d'examen. Derrière, on ne va pas rechercher le papillomavirus, donc il y a plein d'endroits où on ne connaît pas l'épidémiologie. Donc on ne sait pas s'il y a, comme dans les pays à haut niveau socio-économique, une explosion du nombre de cancers de l'oropharynx. C'est compliqué de dire il faut vacciner aussi les garçons parce qu'on n'a pas toutes les données. Donc, aller rechercher des données, c'est un vrai enjeu, là, pour le coup, sociétal et mondial, d'avoir des informations pour prouver qu'il y a un intérêt de protection des populations.
Donc, la désexualisation de la vaccination contre le papillomavirus représente une avancée majeure dans la promotion de l'équité en santé. En élargissant la population cible et en dépassant les stigmates de genre associés à cette infection, la société prend un engagement vers une approche plus inclusive de la santé. Est-ce qu'il existe un autre moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus ?
Vous arrivez à la fin de la deuxième partie de cet épisode. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode suivant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Et si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, donnez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.